Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Titulaire de la chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun a consacré cette année son cours à la production, au commerce et à l'usage des parfums dans le monde antique méditerranéen. Tout en exploitant largement soit des sources textuelles techniques comme Pline l'Ancien, Théophraste ou Dioscoride, un botaniste grec du 1er siècle après Jésus-Christ, soit des sources poétiques comme Catulle ou Martial, Jean-Pierre Brun a constamment souligné que la ligne dominante de son enseignement se basait sur ce que l'archéologie de terrain pouvait apporter à nos connaissances. Dans ses derniers cours, et particulièrement celui entendu hier soir, Jean-Pierre Brun s'est attaché également à montrer la difficulté d'identifier les ateliers de parfumeurs. En effet, leurs installations matérielles se distinguent mal de celles d'une cuisine. On y trouve la présence de flacons, de jarres et de fours. C'est pourquoi quelques-uns de ses prédécesseurs ont surinterprété certains vestiges aux fonctions ambiguës. Inversement, des réaménagements postérieurs peuvent venir masquer une fonction initiale d'atelier de fabrication de parfums, comme cette maison de l'époque hellénistique dont Jean-Pierre Brun nous expliquait que les premiers fouilleurs de 1912 l'avaient interprété comme un restaurant, alors qu'il s'agissait en réalité d'un atelier de parfumeurs pendant la troisième phase d'une histoire complexe. Nous allons entendre ce soir sa dernière leçon sur le sujet. Mais, comme Jean-Pierre Brun va l'expliquer lui-même dans un instant, cette leçon se présente de façon un peu particulière. La conclusion qu'il annonce est en effet précédée d'un exposé par un chimiste, Xavier Fernandez, avec qui il a engagé une tentative expérimentale de reconstitution des parfums antiques. Puis, Jean-Pierre Brun prendra la parole. Ce dernier cours a été suivi de la projection d'un film sur les parfums antiques que vous pouvez voir sur le site internet du Collège de France. Écoutez.
Pour notre dernier cours sur les parfums, et dernier séminaire, puisque c'est un assemblage d'un séminaire et d'un cours, j'ai demandé à Xavier Fernandez, qui est professeur à l'Université de Nice, de venir nous parler de l'avenir des parfums antiques, dans la mesure où nous avons démarré ensemble il y a quelques années et exécuté un programme de recherche sur la reconstitution des fragrances antiques à partir des recettes qui nous étaient parvenues de l'Antiquité et de quelques indications qu'on avait pu tirer des analyses. Et c'est donc sur ce sujet que Xavier Fernandez va intervenir maintenant. Et je terminerai la session par une partie conclusive où j'aborderai quelques points particuliers, notamment concernant à nouveau les ateliers pour indiquer les problématiques en cours et les pistes de recherche qui se présentent devant nous. Mais je lui laisse directement la parole pour qu'il puisse nous présenter l'état des recherches sur un projet donc, que nous avons appelé Céplasia, du nom de, à la fois de la place de Capoue où étaient installés les parfumeurs, mais aussi de l'ensemble de la corporation des parfumeurs antiques.
Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cette noble institution. Alors, pour nous, chimistes, qu'on veut recomposer une recette, donc c'est un petit peu un travail de détective, hein, essayer d'avoir le maximum d'indices pour pouvoir être capable de reformuler, composer ce parfum-là. Alors, je vais vous présenter un petit peu quelles étaient pour nous nos données d'entrée, qu'est-ce qu'on avait comme information pour pouvoir travailler. Alors, bien évidemment, Jean-Pierre Brun, son équipe et toutes ses découvertes nous a permis d'avoir un certain nombre de pistes, un certain nombre d'informations, et en particulier sur tous les outils qui étaient utilisés par le parfumeur à l'époque pour composer ses parfums. Donc, les unités de mesure, le type de dispositif qui était utilisé, et donc tous les consommables que pouvait utiliser le parfumeur, comment il chauffait son huile quand c'était nécessaire, dans quel type d'ustensile, quels éléments étaient utilisés pour prendre les mesures. Et donc, les fouilles archéologiques sont, en tout cas, une première donnée d'entrée pour nous et pour nos reconstitutions. Deux autres données d'entrée importantes, c'est d'abord les sources iconographiques. Et donc tous les vestiges qu'on peut retrouver qui vont présenter des indices sur les procédés utilisés à l'époque. Alors une des plus fameuses est cette fresque qu'on retrouve à la maison des Vetti à Pompéi, où on voit des petits amours parfumeurs qui vont fabriquer le parfum. Et donc ça permet d'identifier les protocoles, en tout cas les façons de travailler les substances odorantes à l'époque, quasiment sur toute la chaîne de fabrication, avec la première étape sur la fabrication de l'huile. Et donc on voit que le parfumeur pressait lui-même son huile, et ce qui permet d'éviter des phénomènes de dégradation assez rapide de l'huile et le défaut majeur des huiles végétales qui est l'odeur de rance, qu'on connaît bien. Et puis après, des opérations, on voit ici, où une matière première est cassée dans un mortier pour la broyer la plus finement, des macérations, et puis ensuite, en allant jusqu'à la mise en bouteille, et puis le commerce du produit. Et donc, il y a un certain nombre, comme ça, de petites informations iconographiques qui nous a permis d'avancer. Une autre donnée d'entrée importante, bien sûr, c'est les écrits, les textes. Pour nous, des protocoles, puisque certains écrits sont des protocoles expérimentaux où on explique comment sont utilisés et comment sont fabriqués les parfums. Alors, c'est extrêmement précieux pour nos travaux. La seule difficulté, mais qui n'en est pas moins d'importance, c'est que malheureusement, ils sont très souvent imprécis. Alors, pour donner deux exemples, la première difficulté, c'est l'origine botanique des plantes. Le règne végétal est extrêmement vaste. Et puis surtout, la sémantique utilisée à l'époque est différente de notre sémantique utilisée en tout cas pour nommer les plantes. Donc la nomenclature qu'on appelle linéenne, qui permet de nommer de façon précise une plante. Et donc, sur les descriptions des plantes utilisées à l'époque, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Il existe beaucoup de variétés, de sous-espèces de plantes, et donc là, généralement, il n'y a qu'une description très sommaire. Et donc, quelle est la plante qui est réellement utilisée? Alors, pour donner l'exemple, en tout cas, un des exemples les plus frappants, c'est la rose, donc qui était pourtant un ingrédient extrêmement important à l'époque. Quelle variété était utilisée? Est-ce que c'était une variété proche de la rose la plus ancienne, qui est la Rosa canina, ou une variété proche de celle qui est utilisée quotidiennement maintenant, ou les deux variétés utilisées quotidiennement, la Rosa damascena, la Rosa centifolia. Donc, quelle était la variété? Est-ce qu'on en était loin? Est-ce qu'on en était proche? Et donc, ça, il est évident que les textes de l'époque ne le décrivent pas, ne l'expliquent pas. Alors, on sait qu'on est certainement proche plutôt d'une Rosa damascena parce qu'elle présente beaucoup de pétales par rapport à d'autres variétés plus anciennes, mais là encore, ça laisse part à beaucoup d'interprétations. Et puis, une autre difficulté, c'est une difficulté expérimentale. Il est rarement fait référence sur les temps d'extraction, qui ont un impact non négligeable sur les composés odorants extraits, et puis sur le nombre d'extractions. Alors, autant les quantités sont clairement présentées et définies, on va même jusqu'au pétale, au nombre de pétales expliquer combien on utilise de pétales par quantité d'huile, mais par contre, il n'est jamais précisé pendant combien de temps, en tout cas précisé de façon non équivoque, pendant combien de temps et à quelle température. Et ça, ça a un impact non négligeable sur le rendu du parfum. Et donc, ça nous a amené à multiplier les essais pour voir un petit peu l'impact de ce type d'information. Alors, on retrouve comme ça plusieurs écrits. Le plus intéressant pour nous est publié par Dioscoride, qui est le plus précis et qui représente de nombreuses recettes. Et puis enfin, une autre donnée d'entrée, c'est l'apport de la chimie, l'apport de la chimie moderne, qui permet d'avoir un certain nombre d'indices sur les parfums de l'époque. Et donc, c'est tout simplement d'analyser pour être capable de remonter à des matières premières odorantes. Alors, il est évident qu'on n'a pas d'informations sur les substances odorantes, qui sont très volatiles et qui ont été perdues au cours du temps, mais très souvent, on a des marqueurs de matières premières qui nous permettent de les identifier et d'avancer un petit peu. Et les marqueurs d'importance, qui permettent de tirer le plus d'informations, vont être très souvent des marqueurs qui permettent d'identifier l'huile, donc des acides gras caractéristiques de l'huile végétale, et donc qui permettent de s'assurer que telle ou telle huile avait été utilisée, et puis des familles de constituants, en particulier de constituants caractéristiques des plantes, de la famille des terpènes non volatiles, qui permet d'identifier telle résine ou telle autre matière première, parce qu'elle va servir de marqueur. Et donc l'analyse chimique permet comme ça de tirer de nombreuses informations. Alors on a été amené à retravailler sur des produits qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Alors un des exemples, c'est l'huile d'olive, qui était vraiment la base la plus importante des parfums dans l'Antiquité méditerranéenne, puisque à cette époque-là, on n'utilisait plus du tout pas une huile d'olive comme on peut la consommer aujourd'hui, qui est une huile d'olive qui est soit tirée des olives noires, soit des olives un petit peu tournantes, mais d'une huile d'olive verte. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas ce type de produit parce que les rendements ne sont pas très bons. Et donc on préfère augmenter les rendements en pressant les olives là où elles ont leur teneur maximale en huile. Et donc, à l'époque, on pressait les olives pour faire les parfums quand elles étaient vertes, pour une odeur intéressante, mais surtout parce qu'elles se conservaient mieux. Et donc, dans le cadre du projet, on a travaillé avec un producteur d'huile d'olive pour pouvoir développer une production sur des quantités assez importantes d'huile d'olive verte pour nos reconstitutions et nos essais. On a eu la chance de pouvoir travailler avec un conservatoire de plantes à parfum qui est situé à Montsartou, juste à côté de la ville de Grasse. Et donc, conservatoire de plantes à parfum, mais qui a également des parcelles de remise en culture de plantes sur quelques dizaines ou centaines de mètres carrés pour pouvoir comme ça replanter et étudier des plantes. Et donc, on avait la chance d'avoir à disposition du jasmin de parfumerie, de la rose, et puis on a pu comme ça remettre en culture du lys, le lys de la Madone, qui est le lys parfumerie, pour nos essais et pour nos formules. Également, une collaboration avec un fabricant d'ingrédients naturels pour arriver à sourcer les matières premières, à les obtenir de façon brute, donc obtenir des pistils de safran, des gommes résines, de la cannelle, un certain nombre d'épices avec une identification botanique certaine et pouvoir les utiliser au niveau du laboratoire. Alors, vous voyez un petit peu les équipements utilisés avec deux phasages. Vous voyez que dans la première partie du projet, c'est plus proche de la cuisine que d'un laboratoire de chimie comme on peut l'imaginer quotidiennement, puisque nos recettes étaient réalisées dans des petits poêlons, des petites casseroles avec des unités de mesure qui se rapprochaient le plus possible des unités de mesure de l'époque. Et on a essayé donc de se rapprocher le plus possible des conditions du parfumeur. Et donc un échoppe de parfumeur à l'époque, si on veut faire le lien, c'est très très proche finalement d'une cuisine. Avec des ustensiles, des cuillères, des réceptacles, des équipements pour broyer et des équipements pour chauffer à des températures qui étaient basses, puisqu'on dépassait rarement 70-80 degrés. Donc une première étape vraiment d'études et de reconstitution à l'identique. Et puis après, on va descendre sur de la modernité, parce que forcément, pour le chimiste, c'est trop tentant de le faire. L'idée après, c'est d'utiliser tous les équipements modernes pour caractériser, pour pouvoir mesurer, pour identifier les substances odorantes, identifier d'où elles vont venir, leur concentration, de caractériser la viscosité des produits, pour pouvoir un petit peu étudier un petit peu plus dans le détail ces parfums. juste pour illustrer ce que c'était et ce que c'est une recette de l'époque. Bon, ben, on fait référence à un livre de cuisine ou un protocole de chimie assez précis où on va présenter étape par étape ce qu'on va et ce que le parfumeur réalise. Prendre tant de pétales, les mélanger avec une quantité d'huile donnée, malaxer à la main, presser, faire macérer pendant un certain nombre de temps, rajouter une gomme résine et un épice broyé, laisser comme ça infuser ou chauffer à un temps donné. Donc vous voyez, c'est une recette que nous avons suivie. Et puis nous avons identifié à différents moments de cette recette des parts d'interprétation, des moments où c'était pas clair, où on pouvait réaliser différents protocoles. Et donc on voit que pour une formule, et il en existe des dizaines à l'époque, pour une formule, ça peut donner lieu à des dizaines et des dizaines d'interprétations. Alors la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il est très ambitieux et illusoire d'imaginer recomposer un parfum antique. Puisqu'on peut imaginer parfaitement que le parfumeur de l'époque, les parfumeurs de l'époque, avaient également ces interprétations. Et donc, à une formule, il devait exister différentes variantes et le parfumeur devait faire évoluer ces variantes selon certainement ses propres compétences ou ses propres souhaits olfactifs. Et donc, illusoire d'imaginer recomposer le parfum à la rose, le rodinon. Il y en a différentes formules et donc qui ont toute une homogénéité, bien sûr, d'odeur liée à cette matière première capitale du produit. Mais en tout cas, il n'en existe pas une. Alors, un exemple, cette fois, sur une autre formule. Vous voyez un petit peu les différents ingrédients utilisés dans cette formule. Donc, une huile végétale qui, dans ce cas-là, est de l'huile de sésame, du jasmin qui donne son nom au produit, des épices, cardamome, cannelle, safran et une gomme résine, la myrrhe. Alors, vous voyez le protocole, quand je vous expliquais tout à l'heure, que c'était très très proche de la cuisine, c'est des macérations, ici à froid pendant des temps assez longs pour fabriquer le parfum, pour tout simplement épuiser les substances odorantes de la matière première d'origine et saturer cette huile végétale. Donc avec un certain nombre comme ça d'étapes où on va faire extraire, immerger le jasmin dans l'huile végétale. Alors ça peut ramener, pour ceux qui sont un petit peu passionnés de parfumerie, à des images anciennes, puisque cette utilisation des corps gras pour extraire le jasmin a été utilisée pendant très longtemps. C'était la technique de l'enfleurage, où on venait déposer délicatement des fleurs, parce que le jasmin est une plante à parfum très fragile, déposer délicatement des fleurs sur des graisses pour pouvoir, comme ça, épuiser la matière première. Donc, réalisée déjà à cette époque-là. Et donc, on va, comme ça, réaliser plusieurs extractions avec des temps qui sont longs, vous voyez, plusieurs dizaines d'heures pour extraire la plante. Et donc, on immerge les pétales et puis en fin de période d'extraction, on va les récupérer, on va presser avec les mains enduites de miel pour pouvoir retirer le maximum de substances. On va ensuite ajouter du sel. Alors, différentes interprétations sur le sel, agent de conservation, mais il permet également de faire décanter plus facilement l'eau et l'huile pour éliminer l'eau qui a été tirée du végétal frais. Et donc, on peut comme ça réaliser plusieurs enfleurages, et vous imaginez parfaitement que plus on réalise d'enfleurages, plus on va extraire de matière première, et plus l'huile va avoir une odeur prononcée en jasmin. On ajoute ensuite, après de multiples enfleurages, vous voyez qu'ici on en a testé 6, on va filtrer, donc on filtre sur un linge, comme on pourrait l'imaginer maintenant sur pas mal de pratiques culinaires, et puis on va additionner ensuite la myrrhe, la cannelle, le safran broyé, donc là l'extraction est beaucoup plus rapide, c'est des matières odorantes qui sont beaucoup plus puissantes, donc là l'extraction va durer 2 heures, et puis après on filtre ce parfum-là qui est terminé. Alors pour toutes ces recettes, on a travaillé conjointement avec des parfumeurs pour faire une évaluation olfactive du produit, pour être capable de voir un petit peu, d'une part, le décrire olfactivement et d'autre part, d'identifier potentiellement les formules qui présenteraient un intérêt pour nos goûts modernes et la consommation moderne des parfums. Donc là, on voit une description olfactive très, très poétique de ce parfum-là. Donc une odeur jasminée très agréable, puis apparaissent des notes très épicées, cannelle, œillet, poivre. Donc on voit bien ces notes de tête avec la note jasmin, et puis après des notes un petit peu plus lourdes. Et enfin, la myrrhe, Donc là, on l'imagine parfaitement parce qu'elle est utilisée également comme fixateur. Et donc, une composition qui est identifiée par notre partenaire parfumeur comme très agréable et qu'on pourrait tout simplement apparenter au parfum Opium d'Yves Saint-Laurent, donc avec une sorte de filiation. Alors, je vous l'ai dit, forcément, le chimiste est tenté d'aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'on retrouve dans ces parfums-là. Pour plusieurs raisons, d'abord identifier les substances odorantes, identifier la participation de chacune des matières premières dans l'odeur du produit, mais également identifier des substances qui pourraient gêner une utilisation moderne du parfum. Vous savez que la pression réglementaire sur notre quotidien est de plus en plus importante, sur la parfumerie également, et certains produits sont maintenant limités de par la présence de composés qui peuvent présenter des dangers pour le consommateur. Et donc, l'idée pour nous a été également, très rapidement, de pouvoir identifier la présence de ces substances-là. Alors, nous avions eu de la chance, parce que nous avions travaillé pendant très longtemps sur les marqueurs aromatiques des huiles d'olive françaises, des AOC françaises. Donc, nous avions développé à l'époque des techniques de micro-préparation où on peut travailler ce qu'on appelle sur l'espace de tête du parfum. Alors, l'espace de tête, c'est tout simplement ce qu'on va venir sentir, qu'on va ouvrir un flacon. Qu'on met un liquide ou un solide dans un flacon fermé, la fraction gazeuse qui est au-dessus de ce liquide ou de ce solide se sature en composé odorant. Et donc, quand on ouvre le flacon et qu'on sent, c'est cet espace de tête-là. Et donc, nous avions développé une technique d'extraction de cet espace de tête-là pour le piéger sur une toute petite fibre, vous voyez que c'est tout petit, pour pouvoir ensuite l'analyser. Et donc, nous utilisons après maintenant donc des équipements, des techniques analytiques puissantes et rapides pour caractériser les odeurs. Alors, c'est des techniques qui, avec tout ce feuilleton maintenant qui présente très rapidement des analyses pour identifier un coupable en quelques minutes. Alors, en réalité, ça prend quand même un petit peu plus de temps, mais que tout le monde connaît. Donc, des équipements qu'on appelle de la chromatographie ou des techniques chromatographiques qui, à partir de ce mélange de plusieurs dizaines à centaines de constituants, va permettre de le séparer sur des colonnes très très longues pour individualiser sous forme de pics les différents constituants et ensuite de les caractériser. Et donc, notre formule au jasmin présentée ici, donc vous voyez, à chaque pic correspond une substance odorante. Au préalable, on a analysé également de façon individuelle toutes les matières premières et on est ainsi capable d'identifier les composés et les différents composés caractéristiques de cette note olfactive, donc présentés, vous voyez ici, avec des couleurs différentes selon dans quelle matière première on les retrouve, pour connaître un petit peu et pour savoir quelle va être la contribution de chacune de ces matières premières. Alors, nous sommes allés le plus loin possible dans la caractérisation physico-chimique de ces produits-là pour mieux les connaître, pour identifier si des produits pourraient limiter leur utilisation. Et puis, on a été ravis de constater que certaines de ces formules avaient potentiellement encore un avenir radieux, pouvaient conduire à des développements. Et donc, ça a été une autre partie du projet, moderniser ces odeurs-là, les incorporer dans des parfums et dans des produits cosmétiques modernes pour hypothétiquement pouvoir remettre au goût du jour, retrouver dans nos échoppes, retrouver dans nos magasins et peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir, offrir à Noël des cosmétiques antiques. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre, merci à vous tous.
Bien, on voit donc tout le champ de recherche qui a quelque sorte inspiré ces travaux qui sont partis du terrain archéologique. Et bon, c'est quand même pas si fréquent que ça que nous puissions collaborer de façon aussi étroite. Je remercie donc à nouveau Xavier Fernandez de sa belle présentation. Et je voudrais maintenant, dans la demi-heure qui nous reste, faire une brève synthèse des... du cours que j'ai fait cette année et aborder quelques questions pendantes qui concernent notamment les ateliers de parfumeurs. Commençons par les usages. J'ai évoqué tous les usages attestés par les sources en insistant, lorsque cela était possible, sur ceux que l'archéologie révèle ou confirme. Toutefois, il faut bien se rendre à l'évidence. Ce sont surtout les usages religieux et funéraires que les fouilles permettent de cerner le mieux. Les usages en rapport avec la séduction et la médecine, pour fondamentaux qu'ils aient été, ne peuvent être documentés par l'archéologie et sont donc minorés par la documentation disponible, qu'elle soit littéraire, épigraphique ou archéologique. Il faut donc tenir compte de ce biais dans toutes nos interprétations et avoir toujours à l'esprit que cette part nous échappe en grande partie parce que la nature de nos sources, même complétée par l'archéologie, ne permet pas de rééquilibrer. En ce qui concerne le commerce, grâce au progrès de l'archéologie, les grands mouvements du commerce des parfums sont désormais bien attestés à partir de l'époque archaïque. On voit d'abord une floraison de centres producteurs durant la période orientalisante, Chypre, Rhodes, Égypte, le Levant, l'Asie mineure, suivie d'une large domination de Corinthe durant les 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ, puis d'Athènes au 5e et 4e siècle. Ces trafics ne doivent pas masquer les productions locales qui débutent dès le milieu du 7e siècle en Étrurie et dans l'Italie centro-méridionale, puis qui se généralisent à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Désormais, à côté des parfums de luxe importés, la plupart des parfums et des flacons de terre cuite qui nous permettent de les identifier sont produits localement dans chaque cité d'une certaine importance, tant dans le bassin oriental de la Méditerranée que dans la péninsule italique. Mais qu'en est-il par exemple de l'Ibérie, pour laquelle nous n'avons pratiquement aucune donnée et sur laquelle évidemment il faudra travailler? Cette tendance à la production locale des parfums se confirme par la suite et il devient même impossible de suivre les éventuels trafics à partir du moment où, dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère et surtout à partir de l'époque tibéro-claudienne, l'utilisation des flacons de verre soufflés se généralise. C'est donc principalement à partir des vestiges d'installations de production que l'on pourra tenter de cerner les productions de l'époque impériale, car effectivement, comme elles sont locales, on a peu de diffusion visible de ces produits. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces installations de parfumeurs? Nous avons vu que pour l'âge du bronze, il existe quelques pistes, principalement parce que les ateliers sont situés dans les palais, et parce qu'on a surtout fouillé les palais. J'ai donc été amené à critiquer, voire à anéantir, un certain nombre d'identifications, comme celle de Zakros, de Mycène, de Pylos. Il reste toutefois des possibilités de véritables ateliers de parfumeurs. Je pense que celui de l'atelier de Pyrgos à Chypre, dont malgré les doutes qui sont soulevés par les méthodes d'analyse et que j'ai largement développées dans un cours précédent, on peut malgré tout penser qu'il a bien produit des huiles parfumées. Et je crois qu'il faudrait reprendre un certain nombre de travaux sur cet atelier avec des méthodes d'analyse plus modernes qui utilisent notamment, comme l'ont montré successivement Nicolas Garnier et Xavier Fernandez, les méthodes par chromatographie en phase gazeuse et par spectrométrie de masse. Pour la période gréco-romaine, le modèle de l'économie palatiale ne fonctionne plus. Et il est évident, à la lecture des plus anciennes sources disponibles, que les parfumeurs sont des artisans plus ou moins indépendants dans la gestion de leurs affaires, même si certains d'entre eux sont des esclaves ou des métèques. Je rappelle le cas de Stratis, ce parfumeur que prend à partie Anacréon à la fin du 6e siècle au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il le prend à partie parce qu'il se laissera pousser la chevelure, ce qui signifie qu'il est devenu assez riche pour prétendre singer les aristocrates en se laissant pousser les cheveux. C'est aussi vers ce type d'artisan que renvoie la totalité des quelques 50 inscriptions latines mentionnant des unguentari, des turari, des seplasiari entre la fin de la République et le deuxième siècle de notre ère. Nicolas Tran nous a expliqué que ces artisans, socialement inférieurs aux élites foncières, faisaient partie de la plèbe moyenne, elle-même hiérarchiquement structurée. Les inscriptions de parfumeurs témoignent de deux stratégies des élites, soit préposer un esclave à exercer le métier en assumant tous les bénéfices mais aussi tous les risques, soit prêter de l'argent à un affranchi pour qu'il exerce cette activité, reversant au patron des intérêts sur la somme prêtée, des loyers, et en lui léguant la moitié de sa fortune à sa mort. Malgré cette pression économique, certains parfumeurs se sont suffisamment enrichis pour investir dans des monuments funéraires notables, comme par exemple cet Attalus de Lyon, qui était parfumeur, mais aussi nôte, c'est-à-dire armateur et commerçant par le fleuve, nôte et sévir augustal, et qui était donc qui avait atteint une fortune notable. Il est plus délicat d'identifier avec certitude les patrons, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des parfumeurs. Même dans le cas d'une grande famille comme celle des Faini, dont dépendait tout un réseau de parfumeurs, et on avait longtemps pensé que ces parfumeurs dépendaient de Lucius Faenius Rufus, préfet de la Nonne en 55, mais Nicolas Tran nous a incité à la prudence en nous disant que ça aurait pu aussi bien, ces parfumeurs auraient pu aussi bien dépendre d'un parent plus ou moins éloigné, mais faisant partie de la même famille. Il a souligné aussi combien la documentation épigraphique était dépendante des modes et des motivations des commanditaires. La présence massive d'esclaves et surtout d'affranchis qui s'affichent en tant que parfumeurs tient tout autant au monde du travail à l'époque tardo-républicaine et impériale qu'à la nécessité pour ces derniers de mettre en avant leurs qualifications professionnelles et éventuellement la fortune acquise par leur travail dans une société qui tenait leur statut juridique pour très inférieur à celui de l'homme libre. C'est donc en cherchant les boutiques de parfumeurs indépendantes qu'on pourrait tenter d'équilibrer nos connaissances. Grâce aux sources disponibles sur l'Athènes de l'époque classique et sur Rome et Capoue de l'époque républicaine et impériale, grâce aux fouilles de Delos, de Pompéi et de Pestum, nous savons désormais où les chercher. Il faut les chercher sur l'Agora ou sur le Forum ou à proximité immédiate. Un grand nombre de ces places centrales des cités antiques ont été dégagées, mais souvent anciennement. Toutefois, une reprise minutieuse de la documentation disponible, assortie de sondages profonds, permettait probablement d'identifier des séries. Nous avons vu en effet, grâce aux fouilles de Pestum et à celles de Pompéi, que ces artisanats se sont perpétués sur les mêmes lieux durant des siècles. Il y a donc toute chance pour qu'il en soit de même ailleurs et que les quartiers de parfumeurs connus à la fin de l'Antiquité par les sources écrites et par l'épigraphie remontent à la République. Rappelons, par exemple, la zone de la rue des Verriers et des marchands d'encens de Pouzol ou le Vicus Unguentarius, situé entre le forum romain et le forum Boarium de Rome. La recherche de ces ateliers aux abords des places centrales des villes demandera donc beaucoup de temps, car ce sont des lieux dégagés sans soin par les archéologues du passé. Mais elle doit être fructueuse. Je cite seulement un exemple que j'ai pu repérer pour la Grèce. Sur l'acropole de Pella, on a mis au jour en 1994 une boutique du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a livré une couche de flacons de terre cuite. Il s'agit donc d'un bon indice de l'existence dans ce secteur de l'Agora du marché aux parfums. Indice que pourrait conforter une étude minutieuse des boutiques environnantes et des sondages en profondeur pour voir s'il y a, comme à Pompéi, une longue tradition de fabrication de parfums à cet endroit-là. Si la recherche d'ateliers dans les boutiques situées sur l'Agora ou sur le Forum est le principal axe qu'il faudra suivre, il ne faut pas négliger d'autres types d'ateliers de parfumeurs. Ce sont les ateliers de médecins, les ateliers militaires, les ateliers de sanctuaires et les ateliers impériaux. Nous avons vu que les parfums étaient couramment employés en médecine et que si de nombreux médecins, selon Pline, recouraient à des parfums fabriqués par des parfumeurs, la Céplasia, certains, plus consciencieux, les préparaient eux-mêmes. Rappelons le cas de cette probable tombe de médecins du IIe siècle après Jésus-Christ, trouvée en 1847 à Saint-Médard-des-Prés en Vendée, qui contenait 80 flacons et tout un attirail pour préparer les remèdes. Certains de ces médecins étaient itinérants, mais d'autres étaient établis dans des agglomérations ou dans des fermes, soit de façon indépendante, soit en tant qu'esclaves. Ce pourrait être le cas, par exemple, de Ménécrate, dont l'inscription bilingue a été trouvée en 1837 au lieu-dit Massavertele, dans la guerre de Volcei, aujourd'hui Bucino, dans le sud de l'Italie. Selon l'article publié par Alessandro Cristofori, Menecrate editale, un medico greco della Lucania romana, paru dans l'Arte di Asclepio, Medici e Malattie in età antica, en 2008, Menecrate de Trale serait un médecin du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui, devenu esclave de la gens Manea, aurait exercé ses fonctions dans une propriété agricole de la famille et peut-être pour d'autres propriétaires voisins. On doit donc penser, lorsqu'on fouille une grande villa de type aristocratique, qu'il y a peut y avoir quelque part un atelier, peut-être difficile à distinguer d'une cuisine, mais un atelier qui aurait pu servir donc pour le médecin de la famille, souvent un esclave, à produire des substances parfumées et des médicaments. Les camps militaires offrent aussi une possibilité de recherche. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'il y avait des militaires exerçant la fonction de seplasiarius, notamment à Mayence, Carlisle, Vindolanda, ces deux derniers sites étant en Grande-Bretagne, étaient-ils seulement chargés de l'approvisionnement en parfums ou préparaient-ils eux-mêmes pour l'hôpital, pour les cérémonies religieuses, pour les soldats qui allaient au terme, préparaient-ils les parfums? La question n'a pas été posée en ce sens lors des fouilles des forts de l'armée romaine, mais il convient de l'avoir à l'esprit lors de nouvelles fouilles pour déceler éventuellement ce type d'installation peut-être à proximité des infirmeries militaires. On pourrait trouver aussi des vestiges d'ateliers de parfumeurs dans les sanctuaires. Il faut se demander si certaines pièces dans les sanctuaires dédiées à un dieu guérisseur ne pourraient pas être des ateliers de fabrication d'onguents médicinaux. Je pense à des sanctuaires comme celui d'Apollon Granus, par exemple, à Grand, dans les Vosges, ou la stèle espérant Dieu numéro 4892, conservé au musée d'Épinal, montre une officine de préparation de substances médicinales. On y voit un chaudron posé sur un foyer dans lequel est placé un long agitateur à manche en forme de caducée, qui est donc l'évocation de la production de ces substances médicinales. Et la scène est mise sous le patronage d'une déesse faisant une libation ici, et tenant des tablettes dans l'autre main, probable indication des connaissances livresques nécessaires à ces préparations. Un autre contexte très particulier, car lié à l'emploi des parfums dans la religion juive, est fourni par le probable atelier de parfumeur qui a été trouvé à Jérusalem. Entre 1969 et 1982, les fouilles effectuées dans la vieille ville de Jérusalem par le Department of Antiquity et l'Israel Exploration Society, sous la direction de Naham Avigad, ont mis au jour une partie de la fortification et des maisons de toutes les époques, situées donc dans la partie haute de la ville. Les fouilles de la zone B viennent d'être publiées par une équipe sous le titre Jewish Quarter Excavation in the Old City of Jerusalem, publié à Jérusalem donc en 2010, et donc décrit la fouille de cette maison, une maison qui a été brûlée, incendiée, lors de la prise de la ville par Titus en 70 après Jésus-Christ. Et on y a trouvé beaucoup d'objets pris dans les ruines et même les restes du cadavre, enfin du squelette, d'un corps de femme qui était... évidemment, avait été tué certainement au cours de l'assaut. La fouille a livré plusieurs fourneaux, des mortiers en pierre, des poids de balance, des mesures, des ingrédients et des flacons en terre cuite et en verre. Ces divers instruments indiquent la possibilité d'un atelier qui aurait produit des parfums pour le temple et qui aurait en fait appartenu à une famille de prêtres, que la famille Bar Katros. Une autre catégorie d'ateliers est à évoquer pour finir, les ateliers appartenant au roi et à l'empereur. Un bon exemple est fourni par le dossier du baume de Judée. Pline, au livre 12, paragraphe 54, nous rappelle que, je cite, « à toutes les odeurs, on préfère le baume accordé à la seule terre de Judée. Jadis, il ne croissait que dans deux jardins, tous deux royaux, l'un de 20 jugères et l'autre un peu moins étendu. 20 jugères, ça fait à peu près 5 hectares. Maintenant, cet arbre est esclave et il paye tribut à sa nation. On incise l'arbre avec du verre, une pierre ou des couteaux d'os. La plaie laisse couler un suc nommé opobalsamum, d'une suavité exquise, mais seulement goutte à goutte. On le reçoit sur des laines et on l'exprime dans de petites cornes. De là, on le met dans un vase de terre neuf. Il ressemble à une huile épaisse et frais, il est blanc. Puis il rougit, durcit et perd de sa transparence. Pendant qu'Alexandre le Grand faisait la guerre de Judée, le produit entier du grand jardin n'était que de 6 conges, c'est-à-dire à peu près 19 litres, et celle du petit d'un seul conge, c'est-à-dire à peu près 3 litres. Aujourd'hui, le fisc le cultive pour son compte, et jamais cet arbuste n'a été plus multiplié et plus grand. Les sarments se vendent aussi, les mondages et les rejetons se sont vendus, et c'est ce qu'on appelle le xylobalsamum. Il sert à la fabrication des parfums, et les officines l'ont substitué au suc. Donc, là, je finis la citation de Pline, qui est importante parce qu'on va voir les surinterprétations qu'on peut en tirer à partir de là. Le texte nous apprend donc comment les jardins royaux où l'on cultivait le baumier sont passés dans le domaine impérial après la mainmise romaine sur la Judée. Flavius Joseph, dans les Antiquités judaïques, a écrit que le baumier était cultivé dans la région de Jéricho en 400, en livre 4, paragraphe 100, pardon, mais aussi à Engedi, où poussent, dit-il, les meilleures dattes et le pot balsamum. Engedi étant situé le long de la mer Morte dans cette partie-là. Cette localisation est confortée par de nombreux autres auteurs, tels que Galien dans De Antidotis, livre 1, paragraphe 4, et également par le Talmud Berakot, paragraphe 43a, qui signale l'exploitation du baume à Engedi. Il est aussi confirmé par Solin, par Eusèbe et par Saint-Jérôme. Et on a donc cette certitude qu'on cultivait le baumier le long de la mer Morte. Mais les archéologues israéliens ont proposé d'identifier dans ce secteur qui s'appelle En Bokek, qui est proprement au sud de la mer Morte, une zone de culture de baumier. Est-ce que cette identification est justifiée ou non? C'est ce que je vais examiner pour finir. Les fouilles conduites par Mordechai Gichon y ont révélé des traces agraires qui datent de l'époque romaine et qui ont été attribuées à la culture du baumier et du palmier dattier. La publication a été donnée en 2000 dans un ouvrage publié par Moshe Fischer, Mordechai Gichon et Oren Tal, et qui s'appelle En Bokek, Excavation in an Oasis of the Dead Sea, deuxième volume, The Ofikina, An Early Roman Building on the Dead Sea Shore, publié à Mainz par Philippe von Sabern. Le bâtiment qui a été fouillé est construit au début du 1er siècle de notre ère et il a été occupé jusqu'au 3e quart du 1er siècle après Jésus-Christ. 3 étoiles ont été identifiées. Il y a d'abord une phase première qui remonterait à la période d'Hérode, à la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui serait caractérisée par la construction de cette tour qu'on voit sur cette diapositive. Ensuite, il y aurait une phase proprement romaine qui commencerait dans les années 20 après Jésus-Christ et qui se poursuivrait jusque vers le milieu du 1er siècle, qui correspond à la construction de tout l'ensemble qu'ils appellent l'officina, hein, qu'on voit ici, avec une cour centrale et des pièces tout autour. Puis, il y aurait une phase d'abandon et une réoccupation très partielle dans les années 132-138, au moment de la révolte de Bar Corba. Le plan montre donc une ferme à cour centrale, incluant cette tour plus ancienne. Le sol de la cour et des pièces était recouvert d'épaisses couches de cendres qui témoignent certainement d'une intense activité que les auteurs relient à la préparation des onguents et des parfums. Et ils proposent donc d'identifier un certain nombre d'installations dans la cour comme étant des foyers, notamment des foyers d'enflorage, des pressoirs éventuellement, et ils ont identifié ici un moulin. Mais, selon moi, les installations de production alléguées, qui se résument donc à des fours attribués à la cuisson des parfums, mais qui pourraient être aussi bien des fours domestiques, à des bases circulaires interprétées comme des socles de moulins à grains et à des bases de pressoirs qui pourraient être des vestiges de compartiments destinés à conserver les grains, et également à des mortiers aussi polyvalents que peu caractéristiques. Pour étayer leur interprétation, les auteurs s'appuient sur des analyses effectuées par le professeur Donadini en Italie. Je ne veux pas discuter ici à nouveau de la validité des méthodes employées par Donadini, qui est principalement la méthode des colorants, sauf pour signaler qu'elle est aujourd'hui totalement dépassée, car ne donnant pas d'identification sûre à la différence de la chromatographie en phase gazeuse. Mais même ces méthodes n'ont pas pu prouver la préparation d'huile parfumée, c'est-à-dire qu'on n'a même pas trouvé d'acide gras, et encore moins d'un traitement quelconque du baume, mais on a seulement trouvé du bitume et des gras animaux. Sans entrer dans une critique détaillée de chaque interprétation, qui nous prendrait trop longtemps, je pense qu'on doit prendre en compte l'hypothèse que le bâtiment d'Enbokek ait été un banal établissement agricole, peut-être tourné vers la production de dattes, voire de miel de dattes, c'est-à-dire une extraction de produits à partir des dattes. L'utilisation des dattes dans le processus serait documentée par des centaines de noyaux qui ont été trouvés dans la pièce 4, ici, liés à ce qu'ils interprètent comme une presse et qui pourrait être effectivement un lieu où on aurait pu écraser des dattes pour en récupérer du jus. Et il semble, en fait, que ces dattes soit ont été produites pour être exportées, ce qui est possible, mais elles ont pu être aussi simplement la base de la nourriture des habitants de cette zone. Et en trouver même de grandes quantités ne signifie pas pour autant une production artisanale déterminée. Donc là aussi, il faut peut-être garder la possibilité que c'était une simple ferme et pas forcément une zone de production, y compris de miel de dattes. Il semble en fait que ce soit surtout la situation du bâtiment, inclus, comme vous l'avez vu, dans un parcellaire qui est interprété dès le départ comme étant, c'est presque une donnée de base, comme étant destinée à la culture de baumier, mais ce n'est pas prouvé par rien. C'est donc c'est cette situation qui aurait entraîné l'interprétation du bâtiment comme une officine de préparation des parfums. En tout cas, toutes les batteries d'analyses qui ont été effectuées, et notamment les analyses des échantillons de bois, n'ont pas prouvé l'existence du baumier parmi les végétaux retrouvés. Sur les 154 échantillons identifiés par Nili Lipschitz, on trouve seulement du palmier dattier, de l'acacia, du peuplier de l'Euphrate et du cyprès. De plus, rien dans le mobilier archéologique sort de l'ordinaire. Ce qu'ils ont trouvé, ce sont des marmites, des bols et des cruches, dont on nous dit qu'elles auraient servi à contenir le baume, mais aucune analyse ne le prouve, et ils peuvent être éventuellement de simples huiliers. En tout cas, j'ai été frappé de voir que dans le matériel archéologique, il n'y a aucun flacon à parfum caractérisé. En bref, si la situation géographique est évocatrice, Si les vestiges sont probablement d'une nature un peu exceptionnelle, on n'a pas la preuve que cet ensemble ait été une officine de préparation du baume. La publication prétend que le xylobalsamum était séché sur le toit de la pièce 6, qui est d'ailleurs plus probablement une cour qu'une pièce couverte. Puis ensuite, qu'il aurait été moulé dans la meule à grains et qu'on aurait traité la résine dans le four numéro 5 avec un système de distillation analogue à celui décrit par Yacoub bin Ishtak al-Kindi dans le Kitab Kimia al-Itr Wat Tasridat, ce qui veut dire le livre de chimie des parfums et de la distillation, qui est un ouvrage écrit au milieu du 9e siècle à Bagdad. On voit donc déjà le télescopage des sources pour interpréter des vestiges qui sont pratiquement de 1000 ans antérieurs. Mais non seulement aucun indice de cette préparation n'est présenté, mais encore, comme je viens de le citer tout à l'heure, Pline nous indique qu'il suffisait d'inciser l'arbre pour récolter la précieuse résine et que les branchettes étaient vendues telles quelles pour la parfumerie et qu'ils n'étaient donc pas broyés sur les lieux de récolte. Je crains donc, en quelque sorte, que l'interprétation qui est développée dans un livre entier de cette installation n'ait été prédéterminée par le lieu de la fouille et par le prestige attaché à la substance qui est aujourd'hui disparue. Et je propose donc de ne pas retenir cette installation comme un atelier royal puis impérial de production du baume. Un tel atelier a pu exister toutefois, car quelques flacons de verre de la forme, notamment Isings 82, portent des marques au nom de patrimonie qui pourrait être en rapport avec la récolte du baume et sa vente lucrative. Mais aucun de ces flacons, bien entendu, n'a été trouvé dans le site d'Enbokek. En résumé, les ateliers sont attendus aux abords des palais à l'âge du bronze, sur l'agora à l'époque archaïque et classique, sur le forum et ses abords à l'époque républicaine et impériale. Il pourrait y en avoir aussi dans les temples, notamment ceux des dieux guérisseurs, dans les camps militaires, dans quelques demeures aristocratiques et peut-être dans des domaines impériaux. Mais aucune de ces trois catégories n'en a pour l'instant livré d'exemple assuré. L'archéologie des parfums a donc de belles perspectives devant elle, à condition de s'appuyer sur des fouilles minutieuses, éclairées par des interrogations pertinentes et par des analyses chimiques, polyniques, anthracologiques, systématiques. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne pourra parvenir à une identification que si on a l'ensemble de ces éléments. C'est-à-dire, par exemple, dans une boutique, un pressoir, des analyses chimiques qui donnent des acides gras, des pollens de fleurs, par exemple, et l'anthracologie qui pourrait donner quelques éléments sur les végétaux utilisés. Et il y a donc de belles perspectives de fécondation interne entre ces diverses disciplines. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, il y a aussi de belles perspectives de fécondation des parfums de demain, si la mode remet au goût du jour les fragrances du passé.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Jean-Pierre Brun, titulaire de la chaire Techniques et Économie de la Méditerranée antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne de Belchin. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Henri Laurence et son cours sur le conflit israélo-palestinien. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.